Nicolas Ballier qui retournait au Vernet après le crash de l'avion de la Germanwings.
Enfant, il jouait dans cet endroit magnifique et meurtri à jamais par le drame du 24 mars 2015. Les trois évêchés, le Galèbre et la vallée de la Blanche, comme les villages de Prats ou du Vernet, ne sont plus les mêmes depuis ce crash terrible et l'emballement médiatique qui a suivi. Agité par la curiosité innée que nourrit ce métier, c'est en journaliste que Nicolas Bally qui est retourné au Vernet, le village de son enfance. Celui qui fut rédacteur en chef adjoint sur Radio France Internationale, grand reporter en Afrique ou bien encore correspondant de Libération à Dakar, se devait de voir au plus près les effets du drame et de constater, bien malgré lui, comment ses confrères se comportaient. Dans l'équilibre entre ce que l'on peut dire ou montrer et ce que l'on ne peut pas partager avec le public par respect pour les disparus et leurs familles ou tout simplement par retenue. Interpellé par les flashs d'infos de cette fin de matinée inoubliable ce 24 mars, il empoigne sa caméra et file direction le Vernet, au-dessus de Digne. Sa connaissance du terrain et des habitants lui permettent d'accéder rapidement au lieu du crash. Il sera hanté pour longtemps de ce qu'il a vu et parfois filmé. Puis dans la foulée, sa famille, son propre frère François Balic, qui est le maire du Vernet, ses amis, ses proches sont confrontés à l'arrivée de centaines de journalistes du monde entier, trois chefs d'État sur une zone presque désertique. À peine plus de 300 habitants pour le Vernet et Prats réunis. Même pas 1500 pour Seyne-les-Alpes où se sont déroulés accueil et hébergement des journalistes, des secours et des familles des victimes. Ces moments impensables, inimaginables, il les a vécus en tant qu'homme et journaliste. Aujourd'hui, il publie Retour au Vernet, mon village après le crash. N'attendez pas de révélations spectaculaires ou de scoops malsains, simplement un témoignage journalistique sur une catastrophe hors norme et un territoire magnifique et marqué pour toujours. Je vous propose d'écouter Nicolas Bally dans cet entretien très direct. Il répond aux questions de François Malabab.
Nicolas Bally, pourquoi avoir écrit ce livre ?
Lorsque je quitte le Vernet 48 heures après le crash, je quitte le Vernet parce que ma première vision sur zone est épouvantable. C'est inimaginable et je ne veux pas croiser les familles. Non que j'en ai peur, peut-être c'est une fuite, mais je ne suis pas psychologue, je ne supporterai pas leur regard, je ne sais même pas comment leur répondre du regard. Donc je m'en vais et en arrivant à Martigues, où j'habite, j'imagine faire une chronique sur les turpitudes de la presse, sur le comportement des médias. J'envisage de l'envoyer à Télérama et puis je me dis c'est un peu réducteur. Et j'ai envie d'écrire, j'ai envie de raconter, parce que j'avais pris des notes dès la première nuit et j'arrivais pas à parler, et puis les gens comprenaient pas pourquoi j'étais allé là-haut. Donc j'avais envie d'écrire. Mon éditeur, David Gossen, il m'a dit « Pourquoi vous feriez pas quelque chose comme un livre ?» Alors là, je lui ai dit « Non, c'est pas possible. » Et puis j'ai réfléchi 24 heures, je me suis dit « Il vaut mieux que ce soit moi, comme Parisien, avec tout le respect que j'ai pour les Parisiens. » Donc je commence à écrire. Au bout de deux jours, j'ai pratiquement écrit toute la partie sur les 48 heures, donc parce que j'écris d'une traite, je sais pas, ça, c'était difficile de décider, je me posais encore des questions, mais écrire, ça filait vite. Ensuite, j'appelle mon éditeur et je lui dis, voilà, il y a deux conditions, je ne relirai pas ce que j'ai écrit parce que je veux garder la spontanéité, la force du récit, et deuxièmement, je veux retourner au Vernet. Je veux aller parler avec les habitants du village que je connais, beaucoup sont mes amis. Je veux savoir comment, une fois que le déferlement médiatique sera passé, comment est-ce qu'on vit face à une montagne qui ne sera plus jamais comme avant.
C'est une montagne que vous connaissez bien, c'est le terrain de jeu de votre enfance et on ressent ça lorsqu'on lit votre livre. C'est un traumatisme terrible en fait qui est tombé sur la vallée.
Un village où il y a aujourd'hui une centaine d'habitants permanents, les gens dès le départ ne comprennent pas ce qui se passe. Même aujourd'hui encore ils ont du mal. Pourquoi ici ? Il y a eu un trauma pour le village. Et les gens se disaient mais j'ai entendu mais ce fou furieux, parce qu'on l'appelle le fou furieux au Vernet, il est allé volontairement précipiter cet avion parce qu'on n'a pas de réponse, parce qu'on ne comprend pas qu'un si grand malheur soit tombé sur un si petit village.
Et en termes d'événements aussi, par exemple, trois chefs d'État en même temps sur des petits villages comme le Vernet, Prats, c'est aussi un événement.
Ça a été relativement bref, normal, très digne. Moi, j'étais pas avec les chefs d'État parce qu'à ce moment-là, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je fais ce que j'appelle ce pas de recul. Je ne suis plus l'habitant d'adoption. Je redeviens journaliste, puis après, je redeviendrai l'habitant. Mais ce fut assez bref, très digne. Non, ce qui a beaucoup marqué les villageois, c'est le déferlement médiatique. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous vous retrouvez avec 600-700 journalistes. Et ça, ça a été une surprise aussi.
C'est un milieu que vous connaissez bien puisque vous en êtes, mais là, tout d'un coup, ils étaient chez vous, ils étaient sur un terrain où ils chassaient des scoops, et là, on connaît plus personne, et vous avez découvert une face particulière de vos confrères.
Ben, j'en étais presque malheureux pour mes amis du Vernet, parce que dès le soir du crash, quand je redescends de la zone à laquelle j'avais pu accéder, je me dis, en descendant, la nuit commence à tomber, je dis demain ça va être un déferlement. Sans prétention, mais je suis journaliste, je sais à peu près que Seine c'est le premier PC secours, que le Vernet c'est l'accès terrestre, donc je sais que le lendemain matin, et ça manque pas. Je me mets à la place des villageois, je me dis oulala, ils vont souffrir, parce que après on se plaint, que ce soit à Seine ou au Vernet, de choses très basiques, des gens qui rentrent chez vous, qui disent est-ce que vous avez la Wi-Fi, vous dites oui, ben entrez, et puis 10 secondes après ou 3 minutes après, vous avez 10 personnes chez vous, des gens qui prennent les places handicapées, qui se gare, et puis surtout cette chasse au scoop, comme vous dites. J'aime bien la phrase de Hubert Huertas, il vaut mieux une connerie d'avance qu'une info de retard. Mais on cherche donc le typique. On va regarder quelqu'un de chez nous, un peu un accent gavo, accent provençal, bien sûr. On va chercher quelqu'un qui est habillé un peu paysan, parce qu'on cherche le typique, faute d'avoir des informations. Parce qu'au départ, pendant de longues heures, on n'a aucune info avant de connaître la cause du crash. Mais pourtant, il faut alimenter la grande machine des médias. Et je crois que ça, c'est la réflexion sur l'info en continu. Et je crois qu'une des grandes chaînes de télé d'info continue, c'est une info par heure. Mais si l'info n'existe pas, ben, apparemment, ils la fabriquent.
Et parfois même, ils sortent des billets.
Alors ça, moi, je l'imagine. Hein. Moi, il y a eu un cas, je le raconte dans le livre, un journaliste étranger qui me propose de le conduire sur la zone de crash et qui me montre des billets. Ça m'a beaucoup vexé. Il va de soi que j'ai répondu négativement, mais ça m'a un peu choqué. On a peut-être proposé à des guides, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'au Vernet, on était surtout dans la compassion, donc ça s'est pas produit. Et on a pensé énormément aux familles. Dans toute l'enquête que je mène, la première chose qu'on me dit, mais nous, on a perdu personne au Vernet. Mais pensez à ces pauvres parents. Voilà ce que me disaient tous les villageois, etc. Les parents qui sont d'ailleurs accueillis par les habitants du Vernet et de Seine aussi.
Nicolas Balic, je vais lire un extrait de votre livre. Vous arrivez, c'est le premier jour, donc le 24 mars. Vous arrivez sur le terrain et évidemment, vous avez accès à cet endroit terrible et c'est un spectacle de désolation que l'on imagine et qui vous perturbe. Voilà ce que vous dites à ce moment-là. Vous sortez votre caméra et vous dites... La débrayée, réglée, mise au point et profondeur de champ ne prendrait que quelques secondes. Je ne le fais pas. J'ai l'impression de ne pas vouloir fixer ces images comme s'il s'agissait d'une violation de sépulture. Le contrôle de ma main gauche m'échappe complètement. Je tremble, je zoome et dézoome sans arrêt. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu, mais mon esprit commande à mon bras de ne pas en garder trace. C'est là où on se rend compte que l'humain est plus fort que le professionnel.
Alors, j'ai eu l'occasion, bon, moi je suis arrivé, j'étais quand même assez loin, et il y a eu des catastrophes pires, on m'a dit oui, mais ce crash, ça arrive, oui. Mais moi, j'ai parlé l'humain, justement, j'ai eu l'occasion, dans mon enquête, je n'en parle pas, parce que c'est un aspect que je ne veux absolument pas aborder, je crois que je lis dans un paragraphe par rapport aux victimes, hein, ou à ce qui en restait. Je dis, je n'en parlerai plus, je crois que c'est sur deux lignes. Lors de l'enquête, en quelque sorte, journalistique, j'ai quand même vérifié certaines informations, pour ne pas dire de bêtises, et j'ai eu effectivement, ça n'apparaît pas dans le livre, ce qui est normal par respect pour eux, des membres des services de secours, l'impression qu'ils ont eue était une impression effectivement profondément humaine. Et moi, si vous voulez, quand on voit à la télé une catastrophe qui se passe à l'autre bout du monde, on a cette espèce de filtre qu'est l'écran de télévision. Mais là, moi, je n'avais pas de filtre. Donc ce que j'ai fait, en fait, inconsciemment, j'ai complètement massacré mes images parce que je voulais créer un voile entre la scène que j'avais sous les yeux et mon esprit. Je voulais me détacher de ça. Par contre, ça reste présent dans ma mémoire. Et en pensant, bien sûr, qu'il y avait 150 personnes à bord, 149, on va dire.
149 plus une, malheureusement. Nicolas, vous êtes retourné au Vernet après ce traumatisme. Comment ont réagi les gens et comment ça se passe là-haut ?
Bon, je pense que déjà, il faudrait peut-être leur poser la question à eux. Moi, ce que je peux constater, c'est que la peine est immense. C'est toujours difficile, c'est un traumatisme qui est durable, hein, ça passe pas comme ça. On échange, hein, déjà il y a des personnes qui viennent voir la stèle. Hein. C'est pas forcément peut-être que c'est des curieux, mais leur attitude, je le dis, est très digne. Mais au bout d'un moment, les gens du village, quand ils voient défiler 20-30 voitures qui demandent où est la stèle de German Wings, au bout d'un moment, donc leur vie est complètement changée. Ce livre, je ne l'avais pas relu après l'avoir écrit. Je l'ai relu quand il est sorti, en fait. Et je l'ai vu sans prétention, parce que je le dis, c'est un modeste témoignage, c'est une toute petite chose. Mais je l'ai vu aussi comme une approche d'un territoire. Ce territoire qui est le mien d'adoption, puisque moi je suis un pays, comme on dit ici, pays d'adoption. Déjà, cette chose-là est pesante. Il y a une autre chose qui est difficile, c'est de dire déjà, on a reçu cette catastrophe littéralement sur la tête, et notre montagne est bouclée. Alors évidemment, elle est bouclée, il y a eu les impératifs de l'enquête, c'est totalement normal. Il y a eu la dépollution qui aujourd'hui, je crois, n'est pas encore terminée. mais l'impression d'être un peu dépossédé de la montagne. Dépossédé par ce déferlement médiatique, qui est quand même une espèce de violation de territoire. Puis ensuite, quand vous avez des gendarmes qui, au début, fouillent les coffres pour voir s'il n'y a pas des paparazzi, c'est quand même mal vécu parce que c'est chez vous. Et aujourd'hui, le temps leur semble un peu long. Mais je pense que la vie continue. Ça, c'est important, mais je pense que le Vernet est durablement marqué. Mais j'espère que ça créera plus de solidarité entre les habitants.
Ce n'est pas le premier crash d'avion sur le massif de l'Estrault.
Dans l'Estrault, il y a surtout, je crois, le double crash de 48, en janvier 48, de deux avions militaires, dont un Dakota, sur le Cheval Blanc. Sachant que, je le raconte dans le livre, le premier appareil, là, on est sur la commune de Prats, et à l'époque, c'était la commune de Blégier, maintenant c'est Blégier-Prats. Un premier avion s'écrase, pris dans une tempête, et un deuxième qui est censé repérer l'avion, lui-même frappe la montagne. Il y a une vingtaine de morts, mais Prats est un village, effectivement, puisque officiellement le crash a eu lieu administrativement sur la commune de Prats. Prats avait déjà vécu donc une double catastrophe.
Vous avez publié ce livre il y a à peine quelques jours. Vous avez déjà des réactions de lecteurs ou de confrères?
Alors moi, ce que je dis à chaque fois, de confrères, oui, parce que j'ai eu quand même pas mal de journalistes, j'ai été étonné qui m'ont sollicité. Par rapport à ça, je dis, je vais vous dire la même chose, lisez le livre, et puis peut-être qu'après, que ce soit les lecteurs, les réactions, je pense qu'elles pourront se faire elles-mêmes, si vous voulez. La seule chose qui m'a gêné, c'est qu'au tout début, alors que le livre n'était même pas paru, une ou deux personnes ont dit oui, ça paraît trop tôt, vous voulez vous faire de l'argent dessus, vous insultez les familles. Et là, la réponse que je donne, c'est, écoutez, si j'insulte les familles, lisez le livre, je crois, et vous verrez que j'ai essayé, hein, je suis pas un saint. Moi, je suis journaliste, je suis un pays d'adoption, mais j'ai essayé de faire très très attention et d'avoir beaucoup de pudeur, parce que moi, ce livre, je le conçois comme un hommage. Et je dis, quel est le plus bel hommage qu'on puisse se rendre à ces malheureuses victimes que de ne pas les oublier? Alors, faire ce récit, raconter ces 48 heures qui ont suivi le crash, puis comment mon village a vécu cette douloureuse expérience, je pense que c'est cet hommage qui est vraiment le plus fort, pour moi.
Avec quelques phrases très fortes pour les 16 lycéens allemands qui sont disparus dans le crash et qu'on ressent très bien dans votre livre. Nicolas, une question un peu plus personnelle. Vous êtes le frère du maire du Vernet, et quand on porte le même nom que le maire qui a vécu un traumatisme terrible, on s'en doute, ça peut créer des tensions.
Moi, j'ai dit déjà une chose, François, qui est mon frère, hein, pendant 6 mois, il a été omniprésent sur le crash. Moi, j'ai trouvé son attitude très digne, de même que celle de Bernard Bartolini, hein, qui est le maire de Prats. Moi, j'ai vu les choses de l'extérieur, si vous voulez. Je suis passé, j'étais de passage comme un journaliste laid, peut-être plus armé par rapport à ce territoire, d'où le livre. Mais je pense qu'eux, ils étaient à l'intérieur, eux, ils ont tout connu, toutes les difficultés. Servir de paravent entre la population impatiente, les autorités, la compagnie aérienne. Je veux dire, il faut appeler les choses par leur nom. La cause de l'accident pour une des compagnies les plus sûres au monde, ça c'est un regard de journaliste, avoir une défaillance dans le recrutement, ça pose effectivement problème. Quant à François, mon frère, je crois qu'il a été au courant de ce livre. Je ne fais pas allusion à notre fratrie dans le livre, parce que j'estime que c'est aussi un livre très intime, même si c'est pas un livre où je raconte ma vie, c'est pas du tout ça, je raconte mon pays parce que je l'aime. Et je me suis dit, je vais pas rajouter une dimension, et je parle du maire du Vernet. Non, ça crée pas de tension. Maintenant, il faudrait peut-être lui poser la question, mais moi, ce que je souligne, c'est que je l'ai vu se comporter dans les 48 heures, je l'ai vu se comporter ensuite. Il a été profondément marqué, et moi, je dis simplement qu'il a assuré.